Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, nous lisons au chapitre 3, au verset 18, un passage qui a été le sujet de beaucoup d'interrogations. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Je vous avoue que je préfère la traduction second qui précède celle-là, l'ancienne traduction, que je vous lis. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Bon, le traducteur a voulu peut-être simplifier les choses pour nous faire comprendre. Voilà, bon, l'idée qui nous fait comprendre, il veut nous faire comprendre, on peut la saisir, c'est vrai. Mais l'ancienne traduction, qui se rapproche plus du texte original, nous dit quand même quelque chose d'intéressant. Parce que vous savez, les miroirs d'autrefois, ce n'était pas comme les miroirs d'aujourd'hui. Les miroirs d'aujourd'hui, ben, ma foi, hein, c'est une couche d'argent derrière du verre. Et puis, ça vous renvoie une image quand même exacte. En général, si le plan de verre est bien droit, ça vous renvoie une image exacte de vous-même. Parce que les miroirs d'autrefois, ben, on n'avait pas cette technique-là, on n'avait pas cette technologie-là. Alors qu'est-ce qu'on faisait ? Ben, on prenait en général du bronze. Et puis il était poli. Le bronze était poli, le plus poli possible. Même en étant très très bien poli, ben, ça ne renvoyait quand même pas une image exacte. Hein. Il y avait des flous, il y avait des choses comme ça. Et donc, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que quand on se regardait dans un miroir, ben, l'image était un peu floue. Et je dirais que c'est en quelque sorte ce qui est exprimé là, c'est que lorsque nous regardons, par exemple, dans la parole de Dieu, hein, donc, nous pouvons contempler la gloire de Dieu, mais nous ne la voyons pas encore d'une façon nette, nous ne la voyons pas encore d'une façon parfaite. C'est pour ça que quand il est écrit, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, vous voyez, c'est comme si la gloire du Seigneur apparaissait dans ce miroir, puis que nous, ben, nous sommes à côté, et nous voyons aussi dans le miroir, mais nous ne voyons pas l'exacte réalité. Nous avons déjà une image qui est là, et qui correspond à quelque chose de vrai, mais c'est quand même encore flou, c'est pas encore net, voyez-vous ? C'est ça l'idée. Hein ? L'idée c'est ça, et puis après vous avez cette notion de transformation qui se produit lorsqu'on regarde, lorsqu'on considère cela. Hein ? Donc voilà, tout ça pour en arriver à notre première grande question, est-ce que vous connaissez dans la parole de Dieu un homme qui a contemplé la gloire de Dieu et sur le visage duquel elle s'est reflétée. Voilà, c'est très bien. Moïse, c'est une question qui n'était pas trop difficile pour commencer. Il y aura peut-être d'autres qui seront un peu plus compliquées après, mais c'est déjà bien. Donc, on va lire ce passage dans Exode chapitre 34, verset 28. Moïse fut là, donc c'est sur le sommet du mont Sinaï, avec l'Éternel, 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau, et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Amen. Alors pourquoi la peau du visage de Moïse rayonnait-elle ? Parce qu'il avait vu Dieu face à face et qu'il lui avait parlé avec lui. Et lorsque nous lisons les versets qui précèdent ce passage, nous voyons qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent ce phénomène extraordinaire. Dans Exode 33, verset 11, il est dit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Est-ce que nous aimerions que Dieu nous parle ainsi ? Ah ben évidemment, bien sûr qu'on aimerait ça. Hein, donc, et sachons aussi que c'est le désir de Dieu. C'est un des grands désirs de Dieu. Et pourquoi est-ce que Dieu a parlé à Moïse ainsi ? Alors on peut trouver au moins 5 raisons pour lesquelles Dieu a parlé à Moïse de cette façon. Déjà en premier, c'est parce que Moïse avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est dans Exode 33, verset 17, que ça nous est dit, donc un petit peu avant notre texte là, du chapitre 34. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire que Dieu donne accès gratuitement à sa présence. Accéder à la présence de Dieu, c'est une grâce. Ce n'est pas la force du poignet. Ce n'est pas par nos mérites que nous accédons à la présence de Dieu. Donc, si quelqu'un ne méritait pas, mais c'était quand même aussi Moïse, parce que rappelez-vous que, par exemple, il avait tué un homme, il a quand même été criminel, mais Dieu lui a donné accès ainsi qu'à sa prière, nous le voyons, et le désir de Dieu, eh bien, c'est de le faire aussi pour nous. Il est écrit, l'Éternel désire vous faire grâce, alléluia. Et il peut et veut le faire ce soir si on s'approche sincèrement et humblement de lui, amen. La deuxième raison pour laquelle ça s'est produit, c'est parce que le Seigneur le connaît par son nom. C'est ce qu'on le voit aussi au chapitre 33 et au verset 17. « Pour que Dieu réponde à vos prières, pour qu'il transforme votre vie, pour qu'il puisse faire son œuvre de transfiguration même comme pour Moïse, il faut que nous soyons connus de lui. » La question c'est ça. Est-ce que nous connaissons Dieu ? Et surtout, est-ce que Dieu nous connaît ? Ah, ça c'est la grande chose, Pendant la saison de Noël 1879, un journaliste agnostique de Boston a vu trois fillettes qui étaient debout devant une vitrine de magasin remplie de jouets. Et puis l'une des trois était aveugle, était entre les deux au milieu. Et puis les deux autres essayaient de décrire les jouets qu'il y avait dans la vitrine à leur ami qui était aveugle. Ce journaliste, il a assisté à ça. Et à ce moment-là, il a réalisé, ce qu'il n'avait jamais réalisé avant, c'est combien il est difficile d'expliquer à quelqu'un qui ne voit pas à quoi ressemble un objet. Et puis cet incident s'est transformé en une trame pour un de ses articles, une de ses histoires qu'il a publiées dans son journal. Et 2 semaines plus tard, ce journaliste assistait à une réunion qui était dirigée par l'évangéliste Moody, dans le but, donc lui il avait le but plutôt de chercher des défauts à Moody pour pouvoir le confondre, pour le critiquer. Et il a été surpris lorsque Moody a utilisé son histoire des fillettes pour illustrer une vérité. La vérité c'est la suivante, et Moody a dit, « De même que la fillette aveugle ne pouvait voir les jouets, ainsi une personne non sauvée ne peut voir Christ dans toute sa gloire. » Une personne non sauvée ne peut pas voir Christ dans toute sa gloire. C'est pour ça que vous avez des gens dans notre église, par exemple, ils ne voient pas pourquoi ils vont louer Dieu. Ils ne voient pas pourquoi ils vont élever la voix. Ils ne voient pas pourquoi ils vont prier. Ils ne voient pas pourquoi. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus, en réalité. Ils ne le connaissent pas encore. C'est ça le problème qu'ils ont. Lors du premier Noël, on se rappelle que seules quelques personnes ont compris qui était vraiment Jésus. Et beaucoup de gens ont entendu, par exemple, le rapport des bergers. Ils ont été étonnés, mais ils n'ont pas vu dans le bébé de la mangeoire, le Fils de Dieu. Et aujourd'hui encore, vous avez une multitude de gens qui ignorent la véritable identité de Jésus parce qu'ils sont spirituellement aveugles. Et si cela vous décrit, si c'est votre cas, eh bien demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux. Croyez que le Sauveur de gloire est mort pour expier vos péchés, placez votre confiance en lui, vos yeux s'ouvriront et vous le connaîtrez vraiment et enfin vous serez connu de lui. Parce que c'est la grande chose, c'est quand même celle-là, c'est d'être connu du Seigneur. Donc, il ne s'agit pas d'être étranger avec Dieu. Il faut que les choses puissent changer. Vous savez, le grand reproche que le Seigneur adressera à ceux qu'il enverra en perdition, c'est « Je ne vous ai jamais connu ». C'est ça. le grand problème. Et peut-être que ce soir, pour la première fois, une vraie prière, une prière sincère, eh bien, va monter de ton cœur et que tu vas pouvoir commencer à t'approcher du Seigneur, à commencer à le connaître et que ce sera pour toi le début d'une vie merveilleuse, bien meilleure que celle que tu as jusqu'à présent. Amen. J'en reviens à Moïse, et si Dieu s'est révélé à lui, c'est quand même aussi parce qu'il a eu le désir ardent de voir la gloire de Dieu. C'est ce qu'il exprime encore dans Exode 33 et au verset 18. Vous savez, Moïse était quelqu'un qui avait beaucoup d'occupations. Il avait beaucoup de choses à faire. C'était un homme d'État, à grande responsabilité, et il avait bien des sujets de prière à présenter au Seigneur. Il était assailli par bien des soucis. Il avait bien des requêtes à apporter à Dieu. Et c'est vrai que le désir de Dieu, c'est de s'occuper de nos besoins. Le désir de Dieu, c'est de s'occuper de nos soucis, qu'ils soient matériels, que ce soit des besoins de nos âmes, que ce soit des besoins spirituels. Mais lorsqu'il voit que notre plus grand désir, c'est de voir sa gloire, c'est-à-dire qu'on a encore plus le désir de le louer, de l'adorer et de le glorifier que de demander des guérisons, des délivrances ou même des conversions, alors il est prêt à se révéler à notre cœur encore mieux. Alléluia. Il ne faut jamais qu'on perde de vue le principal. Alors à ce moment-là, il est prêt à nous faire passer, je dirais, dans un degré de gloire supérieur, à illuminer notre face d'une façon merveilleuse. Amen. Amen. C'est dans une interview, le rabbin Adin Steinsaltz raconte comment un de ses amis a obtenu le prix Nobel de physique. Voilà. Alors, il lui a posé la question de savoir si dans son éducation, un élément permettait de comprendre pourquoi il avait atteint un tel niveau d'excellence. Et puis son ami a répondu, « Quand j'étais enfant, lorsque je rentrais de l'école, mon père ne me demandait jamais si j'avais eu de bonnes notes. Il me disait toujours, « As-tu posé quelques bonnes questions aujourd'hui ?»« As-tu posé quelques bonnes questions aujourd'hui ?» Et d'après cette anecdote, la qualité première d'un homme, c'est de poser la bonne question et de ne jamais se contenter de ce qu'il sait, mais toujours d'être en quête, d'être toujours en recherche. Alors dans le judaïsme, la quête, c'est une valeur spirituelle. Et pour illustrer cette idée, le même rabbin, Steinsaltz, donc, montre que l'étendue du vocabulaire, c'est quelque chose de pertinent. Donc, par exemple, il expliquait que les Esquimaux ont une centaine de mots différents pour désigner la neige. Pourquoi ? Parce que pour eux, il est nécessaire de distinguer entre la neige d'hiver, celle de printemps, la neige légère, la neige dure, la neige fragile, la neige solide. Et il disait, dans le même registre, eh bien, en arabe, il y a 200 mots pour désigner le chameau. Pourquoi ? Bien parce que dans le désert, eh bien voilà, il y a toutes sortes de nécessités, d'usages qui concernent, de choses complexes qui concernent cet animal et son utilisation. Et le Talmud, donc, qui est le commentaire fondateur du judaïsme, propose une trentaine de mots pour parler de la question. Trentaine de mots pour désigner les différentes sortes de questions qu'il peut y avoir. La question déjà résolue, celle qui reste ouverte, la question qui est difficile et celle qui l'est moins, la question née d'une différence d'opinion entre deux textes, la question amenée par une déduction logique, etc. Il y a une trentaine de mots différents pour exprimer cet état d'esprit. Et nous, eh bien, en tant que croyants, nous avons bien des mots pour désigner notre relation avec Dieu, pour désigner l'adoration, pour désigner la louange, pour désigner les actions de grâce, pour désigner l'enthousiasme qu'on a, etc. Tous ces mots sont là. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça montre cette aspiration, ça montre ce désir avec lequel Dieu veut véritablement faire son œuvre dans nos vies. Amen, amen. Moïse avait ce désir ardent de voir la gloire de Dieu. Et si nous avons ce désir, eh bien, c'est aussi un élément important pour que Dieu se révèle. Alléluia. Et puis une chose qu'on voit aussi, malgré tout, c'est parce que Moïse est monté sur la montagne de bon matin. Dans Exode chapitre 34, versets 2 à 4, donc, on voit qu'il est monté de bon matin, il est resté là pendant 40 jours sans boire d'eau, sans manger de pain. Bon, je ne vais pas vous demander ça, on va commencer ça aujourd'hui. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que Moïse a obtenu cela par ses œuvres, par ses sacrifices? Pas du tout. Nous avons expliqué tout à l'heure que c'était par grâce, hein? Mais ça veut dire que Dieu ne se révèle pas à toute vitesse à l'homme qui est pressé de passer à autre chose. C'est ça que ça veut dire, hein? Ça veut dire qu'il ne dévoile pas son esprit, il ne dévoile pas sa gloire à celui qui est simplement poussé par la curiosité. Hein? Donc, il manifeste pas sa gloire aux touristes spirituels, mais il manifeste sa gloire à ceux qui viennent à lui sur la montagne. Alléluia. Hein? Le reflet de la gloire de Dieu sur le visage de Moïse n'a pas été produit, je dirais, par un coup de soleil de début d'été, hein? Mais c'est une exposition prolongée au rayon de celui qui est le soleil de justice. Alléluia. Hein? Donc, la parole de Dieu appelle le soleil de justice. Et là, il y a la guérison dans ses rayons. Et là, il y a le renouvellement. Et là, il y a la régénération. Et il y a toutes choses. Amen. Amen. Et puis une cinquième chose qu'il nous faut relever aussi, qui explique cela, c'est que il ne voulait pas la voir la gloire de Dieu pour lui-même seulement, mais il avait à cœur le peuple qui lui était confié. On voit que ça lui reste sur le cœur continuellement. Dans Exode 34, verset 9, c'est bien marqué. Puisqu'il a commencé à voir cette gloire à laquelle il aspirait, quelle était sa première prière? Mais sa première prière, c'était pour ce peuple dont il avait la charge. Alors il voulait bien voir cette gloire, mais c'était, bien sûr, il désirait être béni, mais c'était aussi pour le salut et pour l'édification de ceux qui lui étaient confiés, de ceux qui étaient avec lui. Vous savez, quand Dieu nous donne quelque chose, ce n'est pas juste pour nous, hein? Ce n'est pas juste dans notre petit cadre personnel, c'est toujours dans un cadre d'édification. Toujours dans un cadre de communion et de bénédiction qu'il veut accorder à ceux qui sont avec nous, à ceux qui nous sont confiés. Et il savait aussi, Moïse, que plus il serait près du Seigneur, et bien plus aussi sa prière en leur faveur serait puissante et efficace. Amen. Amen. Voilà quelques éléments qui doivent nous aider à aller dans la bonne direction pour chercher la révélation de la gloire de Dieu. Amen. Alors, y a-t-il des hommes, maintenant, deuxième question, qui aient vu Dieu face à face? Hein, la parole de Dieu, je ne parle pas de Moïse à ce coup-là, hein, elle nous enseigne que nul ne peut voir Dieu et vivre, mais il est bien vrai que des hommes ont vu des représentations de la gloire de Dieu. Donc, vous en connaissez peut-être. Abraham, c'est pas dit exactement comme ça. Bon, il a eu, voilà. Ah, Manoac. Alors, on va commencer un peu avant, hein. On va commencer avec Jacob, hein. Jacob, Genèse 33, 32, pardon, verset 30. Genèse 32, verset 30. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. J'ai vu Dieu face à face, dit-il, et mon âme a été sauvée. En effet, Jacob, le menteur, le trompeur, le supplanteur, donc, c'est un escroc, hein. Quelque part, hein, il valait pas grand-chose, je veux dire humainement peut-être, hein. En tout cas au niveau moral, au niveau de la rectitude, il valait pas grand-chose. Donc, il avait même combattu contre Dieu, on le voit, hein. Dans sa nature charnelle, il a combattu contre Dieu, même s'il y avait en lui un mélange d'aspirations spirituelles et de choses qu'il était beaucoup moins. Hein, donc, et nous savons comment Dieu était obligé, le Seigneur a été obligé de le frapper à l'emboîture de la hanche. Pourquoi? Parce que Jacob ne voulait pas. Jacob ne voulait pas reconnaître qu'il avait besoin de changer de vie et besoin de soumettre toute sa vie à Dieu. C'était ça son problème, hein. Vous savez, il y a des fois bien des gens, Dieu est obligé de frapper parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à lui. Ils ont des aspirations spirituelles. Donc Dieu veut répondre à ces aspirations spirituelles. Mais pour qu'il puisse y répondre, eh bien, il faut qu'il y ait un brisement qui s'opère. Hein, ça, c'est quelque chose qui arrive. Hein. Donc, et ce même jour, plutôt cette même nuit, eh bien, Jacob a été sauvé par Dieu et béni par Dieu. Et une vie nouvelle a commencé pour lui. Amen. Amen. Et ça, c'est important. Et ça, c'est fondamental aussi. C'est de donner son cœur, donner sa vie au Seigneur. Même si le Seigneur est obligé de briser quelque chose, c'est pas grave. Hein. Vous savez, Jacob, après ça, il a eu tellement plus de paix, tellement plus de repos, tellement plus de joie qu'auparavant, qu'il a été largement gagnant dans ce qui s'est produit. Hein. On le voit. Un autre homme, Gédéon, Il nous est dit dans Juges chapitre 6, au verset 22, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Alors pour les Hébreux, l'ange de l'Éternel, c'était bel et bien Dieu, c'était bel et bien le Seigneur. Hein, donc il était dans la crainte, il pensait qu'il allait mourir parce qu'il avait vu, la gloire de Dieu. Et c'est vrai que certains peuvent aussi être dans la crainte ce soir, c'est vrai, je ne sais pas, à cause de leurs soucis, à cause de leurs problèmes. Peut-être qu'ils ont des craintes vis-à-vis de Dieu aussi. Donc, crainte de leur avenir, crainte pour l'éternité. Gédéon, donc, après la vision de la gloire de Dieu, n'a plus eu de crainte. Lorsqu'on regarde dans les versets 23 et 24, on voit clairement qu'il a trouvé la paix. Il a bâti un hôtel, il l'a appelé l'éternel paix. Donc, Dieu lui a enlevé sa crainte, il lui a fait des promesses certaines, Dieu l'a secouru. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est pour toi, si tu engages ta vie pour Dieu. Là aussi, eh bien, il est écrit, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Vous savez, quand j'écoute les nouvelles, quand je vois tout ce qui nous est raconté, et quand je vois comment les choses évoluent, eh bien, je comprends que les gens soient pessimistes, que les gens soient craintifs, que les gens, eh bien, voilà, ils se disent il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'espérance. Eh bien, même si le monde est comme ça, au milieu du monde qui est comme ça, eh bien, Dieu, il a pour ses enfants un avenir, une espérance. Pour chacun d'entre eux, alléluia. Il connaît les projets qu'il a faits et il les accomplira contre vents et marées. Béni soit son nom. Amen. Et puis, je vais arriver à mon troisième point, et je constate que la Bible nous enseigne que plusieurs ont vu Dieu face à face, mais en connaissez-vous qui ait eu le visage rayonnant suite à cette vision autre que Moïse, donc, est-ce que vous en connaissez? Il y a Étienne, très bien, très juste, et puis il y a bien sûr le Seigneur Jésus, donc bon, ça c'est normal, c'est sur la montagne donc, de la transfiguration, donc voilà. Donc, et ceci nous laisse quand même voir, quand nous commençons à comparer justement ces deux derniers exemples avec ceux qu'on a vus avant, c'est qu'il y a différentes sortes de gloire en fait. Il n'y a pas une seule sorte de gloire, il y a différentes sortes de gloire avec des effets qui sont différents et qui peuvent être de plus en plus extraordinaires. On dirait qu'on a l'impression que c'est un petit peu comme les marches d'un grand escalier sur lequel le Seigneur veut nous faire monter de plus en plus haut. C'est une chose qui nous est confirmée donc par le verset que nous avons lu au départ, dans 2 Corinthiens 3, verset 18, on va commencer à revenir bientôt. Et par exemple, il est évident que Jacob et que Gédéon ont eu des visions de la gloire de Dieu, mais je dirais que ça n'a pas atteint, j'ose pas dire en qualité, mais peut-être en grandeur de révélation, ce que Étienne a expérimenté, et à plus forte raison, bien sûr, Jésus sur le mont de la transfiguration. Même Moïse, qui avait déjà vu la gloire de Dieu auparavant, n'a eu son visage illuminé qu'à partir d'un certain moment qui s'est passé donc dans Exode chapitre 34, donc le passage qu'on a lu juste auparavant. Et je dirais qu'on a l'impression d'être en présence de métamorphoses successives, si on peut parler comme ça, un peu comme dans la nature. Vous avez le passage de la chenille à la chrysalide, et puis ensuite de la chrysalide au papillon. Et ce sont de merveilleux changements, non seulement d'apparence, mais aussi de façon de vivre, de transformation profonde qui s'opère dans la nature. Et c'est un parallèle qu'on peut tracer pour nous. Et là aussi, ça nous rappelle que la vision de la gloire de Dieu, lorsqu'elle est réelle, elle s'accompagne quand même toujours d'une transformation. Elle s'accompagne d'une transformation lorsqu'elle est intégrée. Et métamorphose, c'est le bon mot. Et c'est pour ça que lorsque nous relisons notre texte, donc dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, voilà. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, est-il dit. Et le mot transformé, c'est le mot grec métamorpho, qui est utilisé 4 fois dans le Nouveau Testament. Et ça nous laisse entendre comment la transformation, la métamorphose est profonde, celle que le Seigneur entreprend et celle que le Seigneur poursuit. Et ça nous rappelle, lorsque nous reprenons le cas de Moïse, Moïse qui malgré tout avait été tout un temps impatient, coléreux, orgueilleux, on le voit, Bon, sa transformation s'est faite au travers d'une longue période dans le désert. Mais malgré tout, lorsque Dieu s'est révélé à lui et s'est glorifié, voyez combien cet homme était transformé, il était devenu patient, doux et persévérant. Jacob, trompeur, voleur, escroc, nous l'avons dit, va devenir fidèle à Dieu et va devenir généreux. Gédéon, jeune, faible, craintif, va devenir courageux et fort. Et Dieu, donc, veut nous transformer de fond en comble si on lui donne notre vie comme ces hommes l'ont fait aussi. Et ce sera certainement pour bien mieux que ce que nous sommes maintenant. Alors, par contre, encore une question qui se pose, c'est pourquoi le visage de certains rayonnait-il et celui d'autres ne rayonnait pas, hein ? On le voit. Eh bien, déjà parce que certains crient à Dieu quand ils sont dans la nécessité. Quand ils sont dans le besoin, je vais prendre les cas de Gédéon ou de Jacob, par exemple. Hein. Je vois ça pour tous les deux. Et à ceux-là, Dieu répond. Dieu sauve, Dieu guérit, mais la révélation, elle s'arrête là. Ce n'est pas qu'elle ne pourrait pas aller plus loin, mais en tout cas, il faudrait qu'eux aussi évoluent pour que ça puisse aller plus loin. Donc la révélation s'arrête là. Mais pour d'autres qui se tournent vraiment vers lui avec amour, en étant prêts à sacrifier leur vie sur l'autel, là je pense à Étienne particulièrement, puis évidemment, bien sûr, à notre Sauveur. Alors, eh bien là, il y a une transformation qui s'opère de façon que leur visage en particulier et toute leur vie resplendit de sa gloire. Amen. Hein? Alléluia. Et tout ceci nous amène à Romains chapitre 12, versets 1 et 2, qui nous montre justement la disposition dans laquelle Dieu peut intervenir de cette manière. Romains, je vous lis ce passage qui est bien connu de plusieurs, mais qui lui aussi est très clair sur ce point. Je vous exhorte, Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Là encore, vous trouvez le mot métamorpho. Hein, donc, « transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alléluia. Voilà ce que Dieu veut faire. Hein. On raconte que Adoniram Judson, donc, lorsqu'il est revenu de son long et pénible travail d'évangélisation en Birmanie. Donc, bien, il est revenu donc, en Angleterre. Et puis, lorsqu'il est arrivé là, dans une certaine église qu'il y avait, il y a un jeune homme qui était dans la rue, il l'a vu arriver. Il a été frappé par la lumière qui émanait de son visage. Et puis, comme il était près de l'église, il a couru prévenir le pasteur qui était là. Il dit, il y a quelqu'un qui arrive là. Et puis en effet, effectivement, il venait dans l'église, ce pasteur, Adoniram Judson. Et puis le pasteur l'a accueilli. Après, le jeune homme était à côté. Il essayait de savoir ce qu'il en était, mais le pasteur était tellement absorbé dans sa conversation qu'il ne prenait plus du tout garde au jeune homme. Et ce jour-là, ça a été la vocation de Henry Clay Turnbull, donc qui est devenu un homme de Dieu aussi, très utile dans l'œuvre de Dieu, simplement parce qu'il avait réalisé la gloire de Dieu qu'il y avait sur le visage d'Adoniram Judson. Et je pense que c'est aussi cette lumière céleste, quelque part, qui a été pour quelque chose, lorsqu'elle était sur la face d'Étienne, était pour quelque chose aussi dans le changement de Saul de Tarse. Hein. Et puis, cette lumière sur le visage de Moïse qui a été aussi quelque chose pour la vocation de Josué. Hein. Et puis, cette, bien sûr, là, cette lumière sur le visage du Seigneur au jour de la transfiguration qui a été absolument certainement quelque chose pour la vocation de Jacques, de Pierre et de Jean, ceux qui ont été les colonnes de l'évangélisation, les colonnes de l'œuvre de Dieu, hein, donc, et qui rappelait, que Pierre rappelait dans son épître, et qu'il disait lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Hein, il se souvenait de cela. Et en tout cas, pour Paul, c'est sûr, parce que lui aussi, ben, nous souvenons qu'il a été frappé par cette vision lorsqu'il était sur le chemin de Damas. Et voyez combien il est précieux pour nous et aussi pour ceux que Dieu met avec nous, que cette gloire puisse nous être révélée et que nous puissions avoir à cœur de le rechercher pour que Dieu puisse se manifester. Amen. Amen. Te remercions, notre Sauveur, notre Dieu, tu es celui qui nous tient dans ta main et tu es celui qui veut fortifier dans nos cœurs les bons désirs et les bonnes aspirations, les bonnes assurances aussi, pour que nous puissions continuer à marcher dans ce chemin qui nous mène à nous fortifier en toi et à nous approcher de toi. Béni sois-tu pour ta grande grâce, béni sois-tu pour ton œuvre merveilleuse, sois glorifié notre Sauveur, toi qui désires te révéler aux tiens, toi qui désires vraiment les faire avancer dans ce chemin de gloire. Merci mon Sauveur Tout-Puissant. Amen.